Good evening, ladies and gentlemen.
Hey, what's up, man?
Come on!
One, two, three.
To be or not to be, en matière de questions existentielles, celle-là est la reine, à moins qu'elle ne se soit vue supplantée par une interrogation tout aussi majeure. Où sont les femmes, avec leurs gestes pleins de charme? Patrick Juvet et Jean-Michel Jarre, déjà en 77, se le demandaient en réaction au féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les femmes seront sur le tapis rouge de la Mostra de Venise dès le 31 août, et c'est tout. Femmes ornementales, femmes accessoires, femmes qui font rêver, mais pas de femmes, ou si peu, en compétition officielle de cette grand-messe du cinéma. Sur 20 films, un seul réalisé par une femme et un autre co-réalisé avec un homme. 2 sur 20, sale note quand même. Mais ce n'est pas nouveau, cela fait bien 30 ans que cela dure. Aux États-Unis cette année, les Oscars l'avaient plus blanc que blanc. Même chose aux Molières en France. Conclusion, la femme est en somme un homme de couleur comme les autres. Dansez mesdames, dansez.
Le Mac de l'été. Leïla Kadour-Boudadi sur France Inter.
Aujourd'hui, le Mac de l'été va bouger son petit corps parce qu'il sera question de musique avec le groupe rock français Radio Elvis. On verra pour la définition. Bonjour Pierre Guénard.
Bonjour.
Bonjour Manu Ralambeau.
Bonjour.
Et nous accueillons également le journaliste Bruno Daniel Laurent qui va nous parler d'une histoire assez méconnue, celle du rock and roll au Cambodge dans les années 60 avant l'arrivée au pouvoir des Khmer Rouges. Bonjour Bruno.
Bonjour Leïla.
Vous allez bien?
Mieux que jamais.
Mieux que jamais. Bienvenue à tous dans ce Mac de l'été. Petite curiosité pour commencer. Votre premier achat en matière de musique avec votre argent de poche, attention, c'était quoi? Et sur quel support? Alors, vous,
Je réfléchis encore.
Alors, on va commencer avec vous, Manu Ralambeau.
J'en ai un souvenir assez fiévreux. C'était le disque de Cat Power, What Would the Community Think? Et c'était en CD Digipack.
C'est quoi un CD Digipack?
Bah, c'est un CD, non pas le boîtier en plastique transparent assez moche, mais le carton qui se déplie. Et j'ai même inscrit la date au crayon papier à l'intérieur.
Ça, c'est collector.
C'est mon premier.
Ça, c'est collector. Bruno,
alors,
votre
moi qui suis né sous
achat
la présidence de Georges Pompidou, c'est quelque chose de beaucoup plus archaïque. C'était une cassette audio. Et dans mon souvenir, et je pense pas qu'il a été recréé, c'était Dépêche Mode. C'était Music for the Masses, acheté aux prises uniques de Château-Gontier.
J'aime bien.
Mais cela dit, j'avais acheté avant des cassettes vierges pour pouvoir enregistrer
faire vos propres enregistrements.
Voilà, faire mes propres compilations.
Quelle magie. Et enfin, Pierre Guénard, vous avez le temps de réfléchir, vous n'allez défiler là.
Je crois que c'était un CD de deux titres des frères Hanson.
Alors c'est marrant
Leclerc de Parthenay.
Au Leclerc de Parthenay. Ouais. Alors parce qu'en fait Manu Ralambeau rit énormément parce que je pense que vous n'avez pas donné le vrai titre, le vrai premier titre que vous avez acheté.
Non mais parce que c'est bien plus tard, c'est au collège, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non mais je peux le dire, j'ai acheté Carla Bruni quand j'étais au collège, j'ai pas de honte.
Il y a absolument aucune honte, il suffit juste d'avouer, faute avouée, à demi pardonner comme on dit. À suivre dans ce Mac de l'été, notre feuilleton quotidien dans mon transistor, consacré cette semaine à Albert Camus, la séance de rattrapage, mais pour commencer, on s'informe avec l'agenda.
Ici Paris, Radiodiffusion, Télévision Française.
Je vous propose maintenant d'ouvrir une grande page culturelle.
Un événement cinématographique.
Actualité.
The look of love is in.
Et on commence par prendre l'air dans cet agenda, dans le Gers. Les adeptes du jazz connaissent ce rendez-vous incontournable, le festival Jazz in Marciac, qui ouvre ses portes ce vendredi. Une 39e édition sous haute surveillance, où pas moins de 250 000 spectateurs sont attendus. Ce soir, c'est le timbre chaud et suave de Diana Krall qui va lancer les festivités. À suivre le samedi, concert rare entre le chanteur M et le pianiste israélien Yaron Herman. Au programme également, le trompettiste Ibrahim Maalouf, Lisa Simone, fille de Nina Simone, le bassiste Kyle Eastwood, le fils de Clint Eastwood, ou encore Hugh Coltman.
We don't need no education.
Les fans de Pink Floyd, groupe mythique des 70s, ne tiennent déjà plus en place. Les Britanniques sortent un coffret qui va vous tenir chaud. 7 volumes de 27 disques, plus de 20 titres inédits, 15 heures de vidéos, des interviews, des longs métrages, mais aussi 7 heures d'enregistrement live inédits. Il va falloir économiser aussi pour se le payer. Le dit coffret coûte un peu moins de 500 euros. Il paraît que quand on aime, on ne compte pas. Il paraît. They say that I reign too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting my long, long reign, they making plot to take down my name. I've been breaking. Il va y avoir du monde sur le port de Saint-Nazaire avec le lancement ce soir du Festival des Escales, 25e édition de cet événement musical. Et c'est Fahada Freddy qui ouvre le bal, suivi de la doyenne exceptionnelle Calypso Rose. Autre style, Iggy Pop à 21h30, sans oublier Caravan Palace et Doukoum qui a collaboré avec Public Enemy, rien que ça. Et ce n'est que le programme de ce vendredi. Est-ce qu'il y a un événement qui vous attire plus que l'autre? Un concert, un coffret? Pierre Guénard, vous optez pour quoi? Jazz in Marciac, Saint-Nazaire, les Pink Floyd?
Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, pour quel groupe?
Redite.
Calypso Rose, Iggy Pop.
Iggy Pop.
Iggy Pop, vendu. Manu Ralambeau?
Je préférerais Diana Krall, en fait, je pense.
Alors vous allez à Marciac. On voit déjà le groupe qui fonctionne bien. On se sépare. Hein, l'un dans le Gers, l'autre à Saint-Nazaire. Et vous, Bruno Daniel Laurent?
Ah, moi, ce serait Iggy Pop à Saint-Nazaire, ouais. Sans hésiter.
Eh ben, vous irez avec Pierre. Comme voilà. Ça, c'est vendu. Il est 18h19 sur France Inter. On écoute un titre qu'on aime beaucoup, un titre assez méconnu en réalité. C'est Radio Elvis, Les Moissons.
Regarde-la, sauvage là, sensation du début, ne se laisse plus monter, comme à l'heure des premières crues qui te faisaient chanter. Hola, hola, tout doux, ralentis un peu, tout doux, et le vent a soufflé, soulevé des montagnes, de poussière dévoilée, des continents perdus, des parfums en sommeil, des corps inachevés, qui te faisaient chanter, qui te faisaient chanter. Hola, hola, hola. Tout doux, ralentis un peu. Et les mois sont passés comme un souffle fragile, sans même nous affoler. Les vents qui nous battaient nous dérobaient à ceux qui pourtant nous aimaient et nous faisaient chanter, et nous faisaient chanter. Hola, hola, hola. Tout doux, ralentis un peu. Un peu. Hola, hola. Ralentis un peu. Tout doux. La moisson est finie. J'ai passé la récolte. A cessé d'ignorer quel est ce que nous sommes et qu'on se passe en elle. Comme elle se passe de nous, et qu'on se passe en elle. Comme elle se passe de nous. Hola, hola, hola. Tout doux, ralentis un peu. Hola, hola, hola. Tout doux, ralentis un peu.
Le Mac de l'été sur France Inter.
18h22 sur France Inter, Radio Elvis, avec nous Pierre Guénard, Manu Ralambeau, il manque
Colin Russeil.
Et que fait Colin?
Il est en trek dans la montagne.
Il est en trek, il se repose. Il faut savoir que vous revenez juste d'un concert.
Oui, en Haute-Savoie, à Samoin.
Et vous enchaînez ainsi tout l'été. On va évoquer les dates ensemble. Alors nous, on s'est croisés au Franco de La Rochelle. On devait faire une émission ensemble et finalement, cette émission n'a pas vraiment eu lieu. C'était au lendemain de l'attentat qui a frappé la ville de Nice. Alors on se donne une autre chance avec vous, Radio Elvis.
Merci de nous réinviter.
Vous êtes pour nous le jeune groupe qui monte, qui a été auréolé par beaucoup de distinctions, le prix Charles Cros, le prix des Inouïs du printemps de Bourges, ça c'était l'an passé en 2015. Vous êtes un peu ici chez vous, puisque vous êtes un groupe aimé, soutenu par France Inter. Vous aviez d'ailleurs participé au Radio Crochet, lancé par Didier Varro. C'était « On a les moyens de vous faire chanter ». Mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu ensemble sur la genèse de Radio Elvis. Est-ce que Radio Elvis, c'est un groupe qui s'est composé dès le départ ou... Là encore, il y a eu des constellations et des rajouts dans votre univers.
C'est un vrai système solaire. Radio Elvis, c'était d'abord un projet solo que j'ai mené en guitare-voix pendant, pendant 2 ans. Et puis après, Colin, un ancien camarade de lycée, m'a rejoint sur le projet. On s'est retrouvés à Paris tous les deux, un peu par hasard. Et puis, ça faisait longtemps qu'on voulait avoir un groupe ensemble. Donc, on s'est mis à jouer ensemble. Et puis, 2-3 mois plus tard, on a enregistré notre premier EP, juste avant la ruée. Et c'est sur cet EP qu'on a invité Manu à venir faire de la basse.
Et puis, comment vous avez rencontré Manu ?
Je jouais déjà avec Colin, en fait, dans un autre groupe. Et c'est celui qui enregistrait, Julien, qui m'ont invité à faire les basses, voilà.
Et puis finalement, Manu est resté, mais à la guitare, voilà.
Finalement à la guitare. Alors dans votre parcours, Pierre, figure le nom de Nicolas Jules, parce que alors vous l'avez précisé, vous venez des Deux-Sèvres, vous êtes un Gâtinais.
Tout à fait.
C'est ça.
Avec Colin.
Avec Colin, voilà, deux Gâtinais dans Radio Elvis. Et je suis sûre que Manu est un Gâtinais d'adoption maintenant, voilà, quelque part. Et dans votre parcours, il y a un certain Nicolas Jules.
Tout à fait. C'est marrant, ça fait 2 fois en une semaine que je parle
qu'on vous parle de Nicolas Jules.
À France Inter d'ailleurs.
Et ben voilà. Donc, on est bien renseigné.
On le salue.
Et on le salue, bien sûr.
Nicolas Jules, en fait, c'est un artiste qui a beaucoup évolué dans le Poitou-Charentes et qui tourne vraiment partout. Mais quand j'ai commencé à faire de la guitare électrique, mon prof de musique actuelle à l'école de musique de Parthenay nous faisait les arrangements sur un album de Nicolas Jules. Et on reprenait des chansons de Nicolas. Moi, c'est à cette époque-là que j'ai découvert ce chanteur.
Il y a un chanteur à texte.
Ouais,
vraiment.
Un chanteur de chansons françaises et très bon guitariste. Ouais. Et dont les concerts sont vraiment des expériences à chaque fois.
Oui, c'est de la vraie performance hein,
ouais,
sur scène, Nicolas Jules.
Ouais. Et puis, on reprenait ses chansons. Et puis, le hasard fait que quand je suis arrivé à Paris, je travaillais dans un bar et j'ai eu l'occasion de servir quasiment tous les jours des cafés. Et du coup, on parlait beaucoup de musique et il m'a beaucoup conseillé, beaucoup aidé pour contacter des bars pour aller jouer. Et puis donc quand on a fait l'album, il accompagne mes pensées très régulièrement.
Ouais. Dans l'écriture du texte, justement, on s'est penché sur les textes des Conquêtes. Alors, vous avez fait 2 EP et les Conquêtes, c'est votre premier album qui est sorti le 1er avril de cette année. On parle beaucoup de votre musique, d'une forme de filiation avec pas mal d'artistes. Alors, en réécoutant, je me suis dit que votre premier EP, juste avant La Ruée, je pouvais sentir une filiation assez... évidente, même si c'est pas péjoratif, avec Dominique A, par exemple.
J'allais vous dire de ne pas le dire, j'aurais pu le dire tout seul.
C'est vrai, ah, pardon. Mais est-ce que vous le
tout
sentez,
à fait,
ça
et, ouais. Et tout à fait, j'assume, notamment sur La Traversée, je pense que c'est très proche. Ça reste notre premier EP, l'expérience de groupe était toute fraîche, c'est quasiment que de l'impro ce premier EP, donc, sauf dans les paroles, mais tous les arrangements ont été faits sur le tas, en studio, en 2 jours. Donc finalement, c'est très jeune, très frais, et moi j'écoutais beaucoup, je sortais d'une période où j'avais beaucoup écouté Dominica, et c'est grâce à ces disques que j'ai pu aussi me mettre à écrire des choses un peu plus dans la mélodie et à construire des textes de manière un peu plus cadrée. Et du coup, forcément, ça se ressent sur le premier EP, je le conçois, et puis de toute façon, ça reste une magnifique référence.
Une très belle référence,
oui. Je crois qu'après, sur le deuxième EP, on en est déjà très loin.
Ouais.
Et je crois que sur l'album, on en est vraiment très loin, en fait.
C'est justement ça, c'est cette évolution-là qu'on sent vraiment en écoutant le premier, le second EP, puisqu'il n'y en a pas 3 pour l'instant. Et ensuite, l'album, quelque chose de nouveau. Alors, j'ai eu la chance de m'entretenir avec un certain Antoine Gaillet. Qui est Antoine Gaillet, Pierre ?
Antoine Gaillet est également un poids de vin.
Oui, voilà.
Qui habite à
Paris.
On est
entre nous aujourd'hui. Hein.
Antoine Gaillet est le réalisateur de notre album. Oui. Il avait mixé notre deuxième EP. Parce que c'est encore Julien Gaulier qui avait réalisé le deuxième EP. Et puis sur l'album, on est parti avec lui pour faire la réalisation, le mix. Et c'est lui qui nous a accompagnés donc à ICP à Bruxelles.
Ouais.
Et il nous a poussés et il nous a emmenés là où on voulait être sur l'album. Et puis voilà, et l'album est très différent des EP. Enfin, il y a une continuité des EP, mais entre-temps, on a fait une bonne centaine de dates. Donc ça change la voix, ça change notre manière de jouer, ça change notre son.
Est-ce qu'on s'affirme davantage sur scène et on interprète différemment ?
Il nous a révélé une manière de faire à trois, beaucoup plus construite et puis dynamique. Et dans ce sens-là, c'est un peu notre un révélateur, un catalyseur, ouais. Je pense.
Et puis la scène nous a permis de roder nos titres avant de les enregistrer aussi, ce qui sera peut-être moins le cas sur le deuxième album.
Alors justement, vous y travaillez un petit peu déjà, j'imagine.
Moi, je viens de finir deux chansons aujourd'hui.
Deux.
Alors,
en une journée.
Ça fait six mois que j'ai pas écrit et là j'ai réussi à quasiment aboutir à deux chansons. Alors je suis très content.
Comment on
explique
ça ?
Surtout très soulagé.
Ouais.
Ça fait six mois que j'écris des phrases qui, à mon sens, n'avaient pas grand intérêt et finalement elles ont pris de l'intérêt aujourd'hui. Voilà.
Elles se sont révélées.
Voilà, tout à fait.
Révélation.
Voilà, c'est un jour béni aujourd'hui. Donc oui, on travaille pas spécialement le deuxième album, mais on y pense beaucoup. Donc on commence à écrire des choses et à écouter d'autres choses aussi.
Et vous, Manu, vous écoutez quoi justement pour vous nourrir en ce moment, pour penser à cet album qui va venir ?
Des choses assez diverses dans le temps et puis dans les styles. Là, je sais pas pourquoi j'ai écouté les Beatles, Help. Et puis il y avait Radiohead aussi, le tout dernier. Il y a PJ Harvey. Il y a Balthazar aussi, les deux albums qu'on aime beaucoup en commun. Et puis il y a des classiques de Sonic Youth vers lesquels je reviens toujours.
Antoine Gaillet vous décrit comme un gros culturé musical, c'est-à-dire que vous avez écouté énormément de musique.
Ben
ça c'est votre rapport au groupe aussi.
Personnellement oui, j'en écoute beaucoup, mais tous les trois chacun on écoute vraiment beaucoup et puis on se fait écouter beaucoup aussi dans le camion.
T'as écouté beaucoup de choses très variées en fait.
Oui, ouais. En fait j'ai eu une formation de musique classique aussi. Et puis à un moment donné, j'ai écouté un peu de jazz aussi, qui, voilà, c'est ouvrir les oreilles. Et puis, probablement que ça s'amalgame à un moment donné. Et puis, je sais pas, ça ressort d'une certaine manière dans la musique de Radio Elvis.
Et alors justement, il y a la musique de Radio Elvis et puis il y a le texte de Radio Elvis. Alors, au-delà des références, des filiations qu'on a pu aborder brièvement, on parle souvent de votre musique comme d'un rock littéraire. Alors ça fait un petit peu... attention, c'est un peu pompeux.
Oui, tout à fait.
Mais est-ce que vous comprenez ça ? Moi, j'ai trouvé que c'était un rock à chansons, à paroles.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas de tous les albums rock, on est d'accord ?
Ouais, mais après ça vient de ce qu'on écoute. Enfin moi j'ai été nourri très jeune, j'ai été nourri par le Noir Désir beaucoup. J'étais un grand monomaniaque de Noir Désir, donc forcément. Et puis d'Orchestre Rouge aussi, de tout ce qui entourait la culture de Noir Désir, donc Orchestre Rouge, les Doors, Marquis de Sade, que des groupes qui s'attardaient sur le texte finalement. Et puis moi il y avait d'abord la volonté d'écrire. Enfin en tout cas en parallèle il y a toujours eu la volonté d'écrire en même temps que de faire de la musique. Et voilà, c'est important. Après,
rock littéraire peut-être aussi parce que vous êtes un lecteur. J'ai cru comprendre que vous lisiez pas mal les mots appellent les mots. En fait, c'est ça l'idée.
Je lis beaucoup moins que la plupart de mes amis, je crois. Mais par contre, c'est qu'à chaque fois que je lis, ça déclenche l'écriture.
Ouais.
Alors c'est un exercice que j'essaye de auquel j'essaye de m'astreindre le plus souvent possible. Après, en tournée, c'est vraiment compliqué de lire. J'ai vraiment des problèmes de concentration en plus, donc. Il faut vraiment que ce soit dans des périodes de calme où là j'arrive à lire, mais sinon voilà, j'ai pas lu, je suis pas un érudit. Par contre, quand je lis quelque chose, mais c'est un peu comme la musique où moi je vais peut-être connaître moins de choses, moins de groupes différents.
Ouais.
Par contre, j'ai tendance à m'attarder pendant deux ans sur le même groupe et à écouter que ça.
C'est ce côté monomaniaque.
Un peu. Et du coup, sur la lecture, c'est pareil. J'ai un auteur et je vais peut-être pas tout lire, mais je vais lire plusieurs fois le même livre. Enfin voilà.
Alors là, il y a un auteur qui est mis en belle place dans l'album. C'est Saint-Exupéry. En exergue de l'album, seul l'esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'homme. C'est une citation de Terre des Hommes. Est-ce que si on devait associer un auteur à un album, ce serait celui-là ?
Je pense. C'était un peu le. Disons que cette phrase fait écho à celle qui a juste à côté de Quelque chose existe. Ça fait écho à une chanson.
Votre titre Solarium.
Solarium. Et Solarium résume, à mon sens, résume très bien l'album et très bien la pensée de l'album avec un côté spirituel et symboliste en fait sur tout le. Nous, on parle plus de rock symboliste que de rock lettré en fait.
Ouais. Un petit côté mystique aussi peut-être.
Complètement.
Complètement, on écoute un peu Solarium. Solarium, et là tu sens c'est là, chaleur qui te prend. Et là tu sens c'est là, hauteur qui te prend. C'est l'heure où l'on se presse pour rassembler nos fièvres, les porter à nos lèvres en un souffle premier. Le son et la lumière s'imposent à ton éveil. Là, quelque chose existe. Là, quelque chose existe. Est-ce le vide qui s'avance ou l'instant qui nous guide? Là, quelque chose existe. Là, quelque chose existe. C'est assez mystique, en effet. Il y a aussi quelque chose d'assez mélancolique, pas forcément que dans Solarium, mais dans l'album. Une mélancolie douce, c'est pas forcément triste. Ça, c'est volontaire aussi, vous le sentez ?
Ouais, je pense que c'est mélancolique parce que toutes les chansons... c'est triste, en fait, je crois.
Ah
mais
bon ?
Par moments, je trouve ça... Ouais, c'est plutôt assez triste, je crois, dans le fond, même si la musique est là pour compenser et peut-être ajouter quelque chose de très lumineux. Mais toutes les chansons parlent du temps et il y a une notion de temporalité dans toutes les chansons. C'est le sujet principal et je pense que je ne parlerai que de ça toute ma vie finalement. Mais voilà, donc c'est forcément triste.
C'est le temps qui passe, c'est le temps qui fuit, c'est le temps qu'on n'attrape pas.
Ouais, c'est tout ça à la fois. C'est surtout les gens qui partent et voilà.
Et vous, Manu? À la musique, par conséquent, est-ce qu'on est nécessairement dans le même état d'esprit, dans cette mélancolie, dans cette forme de tristesse?
Involontairement, inconsciemment, ouais. C'est marrant parce que c'est en écoutant l'album fini, en le déballant, que je me suis rendu compte qu'on avait fait un album, mais finalement assez triste, enfin plus que mélancolique, triste, alors que c'était pas du tout...
Mais c'est pas un album pessimiste, c'est vraiment tourné vers...
C'est ouvert.
Vers une quête de sens, en fait, vers une quête d'absolu et de... Et je pense que c'est pour ça que Solarium résume très bien l'album. C'est une espèce de révélation de sentir que quelque chose nous dépasse, en tout cas. Je sais pas si quelque chose existe, mais quelque chose nous dépasse. Et je sais pas en quoi ça se matérialise. Par moments, c'est à travers les éléments. Parfois, c'est à travers la pensée. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses. Et je pense que chaque chanson évoque une possibilité, en fait.
Et il y a Feu Chatterton, par exemple, qui collabore souvent avec Eric Reinhardt pour organiser comme ça des concerts chantés, lus de textes de littérature. Et comme l'ancrage littéraire, on le voit chez vous, est quand même un peu présent. Est-ce qu'il y aurait un auteur comme ça, si vous deviez faire un souhait d'absolu, si on devait vous entendre, avec lequel vous aimeriez collaborer sur scène, créer quelque chose?
On se pose la question parce que justement la Maison de la Poésie à Paris nous propose une carte blanche.
D'accord.
On a beaucoup
réfléchi. On a vu juste alors. Ouais.
en auteur contemporain, c'est assez compliqué parce que on connaît pas beaucoup les auteurs contemporains dans Radio Elvis. Moi, j'aurais tellement voulu rencontrer Saint-Exupéry en fait. C'est ce qui m'aurait vraiment plu.
Ça va pas être possible, Pierre. On va pas
trouver
quelqu'un d'autre.
En dehors de ça, il y a des auteurs que moi j'aime bien, des auteurs contemporains. Il y a Maëlys de Carangal que j'aime beaucoup. Et puis on avait pensé à Sylvain Tesson aussi pendant un temps pour le côté écriture écrivain voyageur. Et finalement, pour cette carte blanche, il n'y aura pas d'écrivain, mais on va faire des textes autour du voyage. Mais après, voilà, il y avait ces deux auteurs-là auxquels on avait pensé.
Et vous, Manu, il y en avait un autre éventuellement ?
Il est décédé aussi. Ça aurait été Nicolas Bouvier. Je traîne ce bouquin, L'usage du monde, depuis un bon bout de temps maintenant, mais à chaque page que je lis, c'est des couleurs, c'est des paysages, c'est des souvenirs. Il associe une cigarette à un sentiment.
Une forme de synesthésie poétique.
Oui, voilà.
Vous avez révisé vos classiques.
Pardon ?
Vous avez révisé vos classiques.
Toujours, je les ai avec moi, je les promène, ils sont un peu lourds parfois.
Vous écoutez France Inter.
Dans mon transistor, c'est notre feuilleton de l'été qui vous donne à entendre des voix qu'on aime et qui ont compté dans nos vies. Cette semaine, cinquième et dernier épisode de notre feuilleton consacré à Albert Camus. Nous sommes en 1957, quand Camus apprend qu'il a reçu le prix Nobel de littérature. Il est attablé dans un restaurant du Quartier Latin à Paris. À l'annonce de la nouvelle, l'écrivain blêmit et se met à répéter que cette récompense aurait dû revenir à Malraux. Camus est jeune, 44 ans, il traverse un moment difficile de son existence, convaincu qu'il n'écrira plus, qu'il a perdu sa vigueur d'homme de lettres.
Du même coup, après avoir dit la noblesse du métier d'écrire, j'aurais remis l'écrivain à sa vraie place. N'ayant d'autre titre que ceux qu'il partage avec ses compagnons de lutte, vulnérable mais entêté, injuste et passionné de justice, construisant son œuvre sans honte ni orgueil à la vue de tous, sans cesse partagé entre la douleur et la beauté, et voué enfin à tirer de son être double les créations qu'il essaie obstinément d'édifier dans le mouvement destructeur de l'histoire. Qui, après cela, pourrait attendre de lui des solutions toutes faites et de belles morales? La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu'exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin. Quel écrivain, dès lors, oserait, dans la bonne conscience, se faire prêcheur de vertu? Quant à moi, il me faut dire que je ne suis rien de tout cela. Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier. Elle m'aide encore à me tenir aveuglément auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite que par le souvenir et le retour de bref et libre bonheur. Ramené ainsi à ce que je suis réellement, à mes limites, à mes dettes comme à ma foi difficile, je me sens plus libre de vous montrer pour finir l'étendue et la générosité de la distinction que vous venez de m'accorder. Plus libre de vous dire aussi que je voudrais la recevoir avec votre permission comme un hommage rendu à tous ceux qui, partageant le même combat, n'en ont reçu aucun privilège mais ont connu au contraire malheur et persécution. Il me restera alors à vous en remercier du fond du cœur et à vous faire publiquement, en témoignage personnel de gratitude, la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai, chaque jour, se fait à lui-même dans le silence.
C'était le discours du prix Nobel d'Albert Camus. Il est 18h40 sur France Inter. On écoute Gregory Porter, In Fashion.
You wear a black leather belt that holds the waist I used to hold. Your colors fade, but not the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. 'Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. But I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. We're never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion, our love is not for real. The weather's fine, but in your mind you need that flair, and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your scheme. Think I better let it go. Think I better let it go. 'Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion, and I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Ba-dum, boom, bum, ba-dum, ba-dum. Ba-dum, boom, bum, ba-dum, ba-dum. Ba-dum, 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 boom, 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 boom. Ba-dum, boom, 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 boom. Ba-dum, ba-dum, boom, 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 boom. Ba-dum, ba-dum, boom, 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 boom. Ba-dum, 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 boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Ba-dum, ba-dum, boom, 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 boom. Fadum, fadum, fum, 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 fum. Fadum, 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 fum, 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 fum. Fum, 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 fum.
Le mat de l'été, Leïla Kadour Boudadi.
Et on est bien sur France Inter, toujours avec le groupe Radio Elvis, Pierre Guénard, Manu Ralambeau, on embrasse Colin Russell. Et nous sommes aussi aujourd'hui avec Bruno Daniel Laurent. Bonjour. Pour parler, bonjour Bruno, d'un passage méconnu de l'histoire du Cambodge, à un moment où il y a eu une grande vague de musique pop à Phnom Penh, entre musique traditionnelle cambodgienne et son rock'n'roll. Et tout ça, c'était cette fusion entre musique cambodgienne et musique occidentale, c'était avant l'arrivée au pouvoir des Khmer Rouges. C'était à peu près dans quelles années ?
Ben c'est les années 50, 60, 70, pour faire très vite. En fait, ce qui s'est passé au Cambodge à cette époque-là, c'est qu'il y a tout d'abord eu une question technique, c'est que les disques vinyles sont apparus comme dans le reste du monde. Ils se sont développés au Cambodge, avec les manches-disques qui permettaient de les lire. Il y a eu le développement la popularisation des transistors. Il y a eu des concerts qui pouvaient être sonorisés. Donc du coup, il y a eu une effervescence comme dans le reste du monde. Et il se trouve qu'il y a aussi eu, à cette époque-là, un dirigeant, qui est Norodom Sihanouk, qui avait été roi à partir de 41 au Cambodge, mis par les Français, et qui était un roi artiste. C'est-à-dire qu'il aimait le cinéma, qu'il aimait la musique.
Il aimait chanter, il aimait jouer. On trouve encore des archives où on le voit jouer dans des films.
Exactement, parce que c'était à la fois un fondu de cinéma et de musique. Et donc, il a voulu organiser une sorte de culture nationale cambodgienne pour faire le pendant de la culture siamoise, enfin thaïlandaise. Et vietnamienne. Et donc il a encouragé comme ça des radios crochets, il y a eu le développement de la radio.
Et on va justement écouter un extrait pour se rendre compte à quoi ressemble cette fusion entre la musique occidentale et la musique cambodgienne. Vous avez reconnu cette reprise de Bang Bang de Nancy Sinatra, et là c'est Pan Ron.
Voilà, Pan Ron qui était une petite chanteuse lilliputienne, mais qui avait une voix très puissante, et qui fait partie de la triade d'or des grands chanteurs de l'époque.
Alors, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que dans les années 20 à Phnom Penh, tout d'un coup il y a une découverte de nouveaux instruments qui viennent d'Europe.
C'est ça, en fait, bah, y a eu, alors, notamment il y a des chanteurs cambodgiens qui à l'époque se sont mis à l'écoute des radios américaines, notamment Voice of America, qui était la musique des GI, qui est donc des soldats qui étaient en train de combattre au Vietnam. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de grands standards de la musique occidentale, qui parfois, on écoute rappelé tout à l'heure House of Rising Sun, repris par Sin Sesamoud, qui lui-même était une chanson qui venait de la tradition, d'une vieille tradition anglo-saxonne. Et donc, effectivement, Sin Sesamoud, Panerone et Cerezotti, qui sont les trois grands, qui sont la triade d'or de cette époque, ont repris des standards occidentaux, mais ils étaient très, très prolifiques et ils n'ont pas hésité à lorgner vers toutes les directions possibles, à faire de la musique mambo, du cha-cha, du rock, et puis aussi des grands slows, comme les Cambodgiens savent en faire.
Alors justement, on va écouter Cerezotti, qui est l'une des trois figures vraiment emblématiques de cette période musicale. Donc Cerezotti, cette reprise de Vénus des Shocking Blue. Donc il y a toute cette effervescence à ce moment-là au Cambodge, une scène musicale dont on avait un peu oublié l'existence ou dont on ignorait absolument tout. Comment est-ce que vous avez été amené à découvrir tout cela ?
Bah moi, je vais au Cambodge régulièrement depuis une quinzaine d'années et donc forcément, m'intéresser à la musique, c'était un moyen extraordinaire de pouvoir mieux connaître le Cambodge. Et surtout, cette période est intéressante parce que c'est la période dite du Songkum, qui est la période qui est un peu considérée rétrospectivement comme l'âge d'or du Cambodge, puisque c'était avant 70 la guerre civile, 75 les Khmer Rouges, puis ensuite l'occupation vietnamienne. Ensuite, c'est une longue descente aux enfers pour le...
Alors justement, justement on y arrive. Le 17 avril 75, après plusieurs années de guerre civile, le parti communiste du Kampuchea, d'inspiration maoïste, va prendre le pouvoir au Cambodge. C'est ce qu'on appellera les Khmer Rouges.
Voilà.
Et là, ils mettent en place toute une politique d'extermination des artistes.
Voilà, ils ont voulu, en gros, ils pensaient que le paradis communiste ne pouvait s'établir que si on rasait à la racine l'ensemble des suppôts de l'ancien régime. Donc ça passait évidemment par l'élimination physique de tous les anciens fonctionnaires, les policiers, etc. Mais aussi la destruction de tous ceux qui avaient, d'une façon ou d'une autre, collaboré à l'ancien régime Oni, et notamment aux influences capitalistes. Donc les artistes ont été triplement accusés d'avoir diverti le peuple, alors que le but était de conduire le peuple à la révolution, d'avoir collaboré avec l'ancien régime, et d'avoir importé des influences occidentales. Donc ces trois chanteurs et chanteuses dont je parlais...
Ce trio de la pop-rock...
Voilà, tous les trois ont disparu. Alors, il n'y a pas eu de biographie très consistante qui a été faite de leur destin, donc c'est toujours un petit peu compliqué, mais on sait en tout cas qui n'ont pas survécu au régime, même si les conditions de leur mort restent encore assez floues pour l'instant.
Oui, on considère que Sin Sesamoud...
Sin Sesamoud, lui, on est sûr qu'il a été arrêté dans les tout premiers jours du régime, donc en avril ou mai 75. Une légende invérifiable affirme même qu'on lui a coupé la langue avant de l'exécuter. Quant à Cerezotti, elle a été déportée dans un camp de travail, comme l'ensemble des citadins, et puis mariée de force à un cadre Khmer Rouge, et on a perdu sa trace. Et la petite Panerone, elle aussi est morte à un moment ou à un autre, mais on ne sait pas dans quelles conditions.
Ce qui est assez étonnant, c'est quand on y repense, le 17 avril 75, à la une du Monde, en titré « Enthousiasme populaire, la ville est libérée ».
Oui, voilà, libération. Bah oui, en fait, tous ceux qui ont voulu montrer la réalité des massacres au Cambodge ont mis beaucoup de temps à se faire entendre en France, et la plupart étaient évidemment considérés comme des espions du SDEC, de la CIA, et ce genre de fadaises. C'était très très dur d'ailleurs pour ceux qui savaient et qui n'étaient pas entendus en France. Alors, ça arrive souvent que les vérités mettent du temps à advenir.
À émerger. Alors cette pop cambodgienne n'est pas morte, parce que après les Khmer Rouges et aujourd'hui maintenant, on se rend compte qu'il y a une scène musicale très très vivace. Pour vous donner une petite idée, on va écouter Dengue Fever, Chef Hubert. Donc preuve que cette scène-là est encore vivace. En quelques mots, Bruno, comment est-ce que vous la définiriez aujourd'hui, cette scène?
Alors tout d'abord, il y a les grands héritiers, des chanteurs comme Xedei, Song Vichee, qui eux sont les héritiers naturels, donc des Cambodgiens, les héritiers naturels de Sen Sesamoth. Et puis il y a aussi une sorte de scène, on va dire, interculturelle, qui est souvent issue de la rencontre entre des Australiens, des Américains, des Français et des Cambodgiens. Et chacun apporte comme ça sa propre cosmogonie et sa propre technique, ses propres influences. Et c'est vrai que ça fait des groupes très intéressants, parce qu'ils reprennent évidemment des morceaux qui sont connus par la jeunesse, mais également par les grands-parents, parce que ce sont des classiques de la culture khmer, mais remis au goût du jour.
Vous pensez encore que la vie est un roman? Qu'est-ce que vous espériez trouver dans tout ce fatras? Le bonheur dans les lits? Vous êtes un idiot, mon taille.
Vous écoutez le Mac de l'été sur France Inter, il est 18h53, notre rituel, la séance de rattrapage, un conseil culture rien que pour vous, un bol d'air frais dans un monde impitoyable, bref, l'occasion d'approfondir ou tout simplement de découvrir. Nous sommes vendredi et la tradition veut que tous les vendredis, nous appelions un libraire pour notre séance de rattrapage. Et aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Hamelin de la librairie Le Carnet à Spirale à Charlieu, à côté de Rouen, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Léla.
Comment ça va à la campagne?
Oh, bah très bien, on va très très bien à la campagne.
Alors justement, un conseil de la campagne pour sa valise l'été. Qu'est-ce qu'on prend avec nous, Jean-Baptiste?
Alors c'est difficile votre question, parce qu'on a envie de remettre en avant plusieurs livres. Mais là j'ai choisi le livre de Karl Aderholt, un livre qui se nomme Rouge. C'est aux éditions des Escales et c'est paru au mois de mars dernier. Alors c'est un roman assez personnel. On peut pas dire autobiographique vraiment, mais c'est un roman personnel de Karl Aderholt qui décide d'écrire, on va pas dire les mémoires, mais une certaine mémoire de sa famille.
Et de quel milieu est-il issu?
Déjà, son père est comédien et c'est un milieu également politique très fort, puisque son père était communiste, mais communiste à un niveau peut-être excessif, comme ça pouvait l'être à l'époque, où la valeur politique avait une valeur de vie quotidienne. Et Karl a vécu sous la coupe de cet homme. Ça donne un texte flamboyant. C'est pas du tout un procès contre son père, loin s'en faut d'ailleurs. L'idée un petit peu générale, c'est de se dire qu'hérite-t-on de ses parents, mais que va-t-on offrir à nos enfants, puisque également il y a les enfants de l'auteur qui sont dans le livre, et Karl se pose la question de savoir ce qu'il va leur laisser.
Cette notion donc de filiation, vous m'avez donné très envie. Et Jean-Baptiste, s'il fallait faire un petit pronostic quant à la rentrée littéraire, qu'est-ce qui vous a plu?
Alors j'ai un livre qui m'a absolument bluffé, c'est un premier roman. Alors ça, j'aime bien aller chercher des premiers romans pour nos lecteurs. C'est un livre de Negar Djawadi, un livre qui se nomme Désoriental. Mm-hmm. Ça paraît aux éditions Liana Levy. Et c'est l'histoire d'une famille dans la grande histoire de l'Iran, depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ça va être l'histoire de Kimia, une petite demoiselle iranienne qui a un père qui est un intellectuel contre le pouvoir, qui s'appelle Darius. Et ils vont vivre au rythme des lettres, des écrits de Darius, de leur liberté de vie et d'expression dans un régime qui est difficile à vivre au quotidien. Moi, j'ai trouvé ce livre, en plus pour un premier roman, Il y a de quoi faire trois romans dans ce livre, mais il n'y a qu'un roman et il est parfaitement tenu. Vraiment, c'est un coup de cœur. J'espère que qu'il aura une belle lecture à la rentrée littéraire. Et je me fais pas trop de soucis là-dessus, parce que c'est un livre très intelligent avec vraiment des réflexions sur l'exil, sur la langue maternelle, sur la famille, qui sont tout à fait étonnantes.
Merci à vous. Merci aussi à notre partenaire, la revue Page, que vous retrouvez chez votre libraire, bien entendu, et sur pagedeslibraires.fr. Je vous souhaite, Jean-Baptiste, un très bel été à la campagne. On vous envie.
Merci beaucoup. Vous êtes invité quand vous souhaitez.
Avec plaisir.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est la fin du Mac de l'été. Merci beaucoup Radio Elvis, merci les garçons.
Merci.
Je précise que vous êtes en concert le 4 août à Saint-Hilaire de Rayé. Et en attendant, surtout une grosse date que j'attends avec impatience, c'est le 8 novembre à La Cigale.
Tout à fait.
Ouais, bon, merci d'être venu. Merci également à vous Bruno, Daniel, Laurent. Quant à vous, il y a un livre qui va sortir au mois de mars, Voyage au pays des Cham, un récit sur les minorités musulmanes du Cambodge et du Vietnam. On attend ça avec impatience.
Merci à vous.
Demain, le Mac de l'été se repose, mais revient lundi à 18h. Je reçois le comédien et réalisateur Cédric Kahn à l'affiche de L'économie du couple de Joachim Lafosse. On passe le couple à la loupe et c'est pas toujours joli, joli. Je dis ça, je dis rien.